Auditrices et auditeurs, bienvenue sur cette émission sur les livres et leurs auteurs. Une émission sur les livres, avec leurs auteurs, des livres qui réunissent le plaisir de la lecture à la réflexion théologique. Yves Moatti, bonjour.
Bonjour.
Yves Moatti, vous publiez un livre sur Jésus et l'Inde, Jésus et la spiritualité orientale. Alors ça va peut-être faire sauter au plafond théologien, bibliste, chrétien, mais nous allons voir ensemble comment vous déployez cette idée dans cet ouvrage « Enquête de la source, Jésus et l'Inde » que vous publiez aux éditions « Les deux océans ». Alors cela fait-il longtemps, Yves Moatti, que le sujet de la spiritualité, du christianisme vous intéresse ?
Ah oui, ça fait très longtemps que je m'intéresse à l'enseignement de Jésus, que je m'intéresse à l'exégèse des évangiles, et aussi très longtemps que j'essaie de comprendre ce que Jésus a réellement voulu dire, ce qu'il a réellement voulu enseigner. Et je me suis rendu compte que les recherches bibliques récentes, celles du XXe siècle en tout cas, et même depuis le XIXe siècle, ont permis de déterminer que les documents que nous avons actuellement, donc ce qu'on appelle les évangiles canoniques, en fait n'ont pas été rédigés en une seule fois. Ils ont fait l'objet de plusieurs rédactions successives, ce qui fait qu'entre la parole initiale de Jésus et ce qui a pu être transcrit par suite dans les évangiles, il y a eu toute une évolution, il y a eu une forme d'entropie qui fait qu'il y a eu des commentaires, des explications, des informations qui sont rajoutées aux paroles brutes de Jésus.
Absolument. Allez-y.
Oui.
C'est aussi et ce que vous dites... On va y arriver. C'est aussi ce que vous dites quand vous... La quête de la source, enquête de la source, nous verrons tout à l'heure en quoi consiste cette source et de quoi il s'agit. Mais j'aimerais, pour commencer, justement commencer par le début de votre livre, parce que vous commencez par vous intéresser au récit d'un voyage au Tibet et par la découverte d'un manuscrit, La vie inconnue de Jésus-Christ, publié par un certain Notovitch, avant d'aborder cette histoire de la source Q. Mais alors, ce manuscrit, La vie inconnue de Jésus-Christ, publié par Notovitch, de quoi s'agit-il, Yves Moatti ?
Alors, c'est un document qui a été découvert, d'après cet explorateur russe, dans un monastère tibétain à Imis, au Ladakh. Disons que cet explorateur russe était en visite, disons, touristique, mais également il s'intéressait aux us et coutumes locales, ainsi qu'aux spiritualités locales. Et par hasard, il a entendu parler par des moines bouddhistes, par le supérieur d'un monastère, de ce qu'il existait au Tibet, un manuscrit tibétain en pali qui relatait la vie de Jésus et notamment le fait que Jésus aurait pu vivre en Inde. Il n'est pas allé jusqu'au Tibet, il s'est arrêté à Imis parce qu'il a appris que dans ce monastère au Ladakh, il y avait une traduction en tibétain de ce manuscrit qui à l'origine aurait été rédigé en pali. Et c'est donc grâce à un traducteur tibétain que lui par la suite a transcrit et publié en français une traduction d'une partie en tout cas de ce manuscrit qui lui a été présenté par ces moines tibétains. Et dans ce manuscrit, il y fait état un peu de l'histoire de biblique, mais aussi de la vie de Jésus, mais aussi bien de la partie connue que de la partie inconnue, qui est celle de son possible voyage en Inde. Et dans la partie connue, il y a des épisodes qui ressemblent, des épisodes qui divergent assez sensiblement de ce qui est raconté dans les canoniques. Et par contre, ce qui apparaît sur la vie de Jésus en Inde, entre 13 et 30 ans, c'est vrai qu'il n'en est fait nulle part mention ailleurs dans les canoniques. Simplement, lorsqu'on aborde la vie de Jésus à partir des évangiles officiels, on sait simplement qu'entre 13 ans et 30 ans, il ne se serait rien passé, il y a comme un trou. Et c'est vrai que ça pose un peu question, ça suscite la curiosité de savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie de ce grand personnage entre ses 13 ans et ses 30 ans. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas du tout dans les canoniques ? Et c'est vrai que ça puisse susciter des interrogations. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à cette partie-là.
Alors, vous commencez votre livre, vous ouvrez votre livre par cette histoire un peu romanesque, comme un récit de voyage, et puis on arrive assez vite au cœur du sujet, qui est finalement, tout n'est pas dit dans les évangiles canoniques, loin de là, l'Église n'aurait pas tout gardé, aurait même confisqué des aspects, et vous dites, il y a des textes qui sont voilés, cachés, et vous arrivez à cette source Q. Alors, comment est-ce que vous faites le lien, justement, entre ce manuscrit auquel on n'a plus accès, bien sûr, qui n'existe plus, juste par cette traduction, et par cette source dont vous parlez ?
Alors, l'exégèse biblique a permis de déterminer que les canoniques se sont inspirés de plusieurs documents. Mmh. Et parmi l'un de ces documents, il y a ce qu'on appelle la source Q, qui veut dire en allemand Quelle, donc c'est-à-dire la source. Et on sait, d'après différents témoignages, mais aussi d'après les recherches bibliques, que cette source, dont se seraient servis les évangélistes, était un simple recueil de paroles de Jésus, donc de paroles brutes, de paroles brutales même, de paroles directes, sans aucun commentaire ajouté, sans qu'il soit fait référence à des miracles ou à autre chose. Disons, c'est vraiment, Jésus apparaît comme un maître très déroutant, comme un maître qui incite ses disciples à trouver le royaume en eux-mêmes et non pas dans un au-delà, ni dans un avenir à venir. Dans un avenir futur. Et donc, c'est un enseignement qui est direct, c'est un enseignement qui ressemble plus d'ailleurs à l'enseignement qu'on peut retrouver dans la bouche des maîtres d'Asie, comme le Bouddha ou Lao Tzu, qui est vraiment un enseignement de maître à disciple. On n'attend rien, le royaume n'est pas à venir, le royaume est immédiat, le royaume est en vous. Et quand on essaie de déterminer ce que Jésus a pu enseigner, ce qu'on n'a pas pu enseigner, on est presque sûr maintenant que, par exemple, Jésus n'a jamais fondé d'église au sens qu'on entend aujourd'hui. On est sûr aussi qu'il n'a jamais fondé son enseignement sur la résurrection, en tout cas sur un miracle, sur ce qui serait la réanimation d'un cadavre. Il est toujours à l'accueil, toujours disponible, toujours essayer de faire creuser en nous-mêmes cette source qui est en nous-mêmes. Et lorsqu'il s'adresse à son disciple le plus proche, à Thomas, il le dit justement, à un moment donné, lorsque les autres disciples disent qui suis-je pour vous ? Donc certains disent tu es un philosophe, d'autres disent tu es comme un prophète, d'autres disent comme est un ange. Et seul Thomas dit, maître, ma bouche n'osera pas dire qui tu es. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, mais toi, tu as mesuré la source bouillonnante à laquelle, enfin tu as trouvé la source bouillonnante à laquelle moi je me suis, que moi j'ai mesuré. Et donc c'est un enseignement direct, pratiquement sans parole, et c'est cet enseignement-là qui me semble celui qui est le plus fidèle à ce que Jésus a pu dire et a pu enseigner.
Est-ce que vous êtes en train de dire que le fait d'avoir rassemblé 4 évangiles, d'en avoir fait un canon, en y ajoutant aussi les épîtres de Paul pour constituer le Nouveau Testament, aurait noyé le message de Jésus ?
En quelque sorte, parce que si vous voulez, les évangiles canoniques ont été rédigés sous l'influence de saint Paul, qui lui fonde sa foi, son évangile, sur l'épisode de Damas, celui lequel où il y aurait une apparition ou une vision ou une hallucination d'un être qui se faisait ou qui s'appelait Jésus, et il fonde tout son enseignement sur la résurrection au sens de réanimation du cadavre. Alors que dans l'enseignement de Jésus, la résurrection, ce n'est pas la réanimation d'un corps, c'est l'éveil intérieur, au sens d'ailleurs initial du mot résurrection, qui veut dire se lever, se dresser, s'éveiller. C'est vraiment l'esprit qui vient en nous-mêmes, c'est vraiment l'esprit qui nous ressuscite, à tel point que les premiers aussi chrétiens disaient qu'il ne faut surtout pas dire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, mais qu'au contraire, il est d'abord ressuscité, et c'est ensuite qu'il est mort. C'est-à-dire que le corps, le cadavre n'a aucune importance. Mmh. Seul l'esprit compte, l'esprit en nous-mêmes.
Alors, pourquoi est-ce que l'Église aurait ainsi, transformé ce message-là ? Quel est l'intérêt d'avoir fait cette transformation, de ne pas avoir divulgué ces vraies paroles ?
Parce que au début du christianisme, il y a eu énormément d'écoles différentes. Il y a eu énormément d'églises qui avaient un enseignement qui divergeait l'une de l'autre. Il s'est trouvé que c'est l'église de Rome qui finalement a pris en quelque sorte le pouvoir par rapport aux autres, pour des raisons en grande partie historiques. Il se trouve également que l'église est devenue une sorte d'administration, que à partir du moment où elle a été reconnue par Rome, par l'empereur romain lui-même, elle devait fonder son pouvoir et écarter les autres écoles. Et également, le risque, disons, pour l'Église officielle, c'était que les fidèles ne cherchent pas directement en eux-mêmes l'esprit. Elle voulait à tout prix qu'il y ait un intermédiaire. Donc l'intermédiaire, c'était l'évêque, c'était les curés, c'était le pape. Alors que dans l'enseignement de Jésus, c'est un appel direct à trouver Jésus en lui-même. Jésus dit « Celui qui boit à ma bouche trouvera l'esprit, trouvera le soi ». Là, il faut essayer de passer par l'intermédiaire pour faire en sorte que l'administration puisse survivre dans l'enseignement de l'Église.
Alors, l'épisode de la Réforme au XVIe siècle a cherché justement à retrouver, à réinterpréter les textes pour leur en donner toute leur force. Est-ce que cela n'aurait pas été suffisant à vos yeux pour enlever...
Je ne pense pas, parce que Parce que tant que l'on reste sur, en quelque sorte, le mythe de la résurrection en tant que réincarnation d'un cadavre, ça ne permet pas d'accueillir directement l'esprit en soi.
Alors, vous citez aussi parmi dans votre livre, notamment Charles Guignebert qui dit « C'est l'enthousiasme qui a engendré le christianisme, mais c'est l'enthousiasme des disciples, ce n'est pas celui de Jésus. » Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez d'enthousiasme ?
Ah ben c'est le fait que les disciples ou ceux qui ont entendu parler de Jésus, soit de son vivant, soit beaucoup plus tard, étaient enthousiasmés par tous les récits fabuleux qui ont été créés à partir de ce personnage, par tous les mythes de Noël, par tous les miracles. Il y a eu vraiment une montée qui a fait en sorte qu'on a voulu à tout prix faire de ce Jésus un Messie, un Christ, alors que Jésus de son vivant n'a jamais été le Christ. Disons Jésus, on peut dire qu'il a un enseignement qui nous amène au Père, mais que lui-même n'a jamais été chrétien. Le christianisme vient après Jésus, vient grâce au mythe forgé par saint Paul, notamment le mythe de la résurrection, mais tous les mythes, tous les miracles qu'on raconte. Donc Jésus était sûrement un guérisseur, mais on s'aperçoit lorsqu'il s'adresse à ses disciples, il dit surtout ne parlez pas de ces miracles, ça n'a pas d'importance. On fonde tout sur un miracle. Alors que la foi ne peut pas être fondée sur un miracle. C'est un événement miraculeux, c'est un événement merveilleux, mais en quoi est-ce que ça nous apporte quoi que ce soit pour la découverte de l'esprit en nous-mêmes ?
Donc ce que vous êtes en train de dire aussi, c'est que lorsqu'on ne lit que ces logias, que l'évangile de Thomas, que cette source Q, est-ce qu'on perçoit là tout l'enseignement philosophique, spirituel de Jésus ? Ça suffit pour en faire un enseignement chrétien ?
Ah oui, de toute façon, Jésus est forcément, en quelque sorte, le personnage sur lequel se fonde le christianisme. Donc si on remonte à la source de ce qu'il a vraiment dit, forcément, on ne peut que réhabiliter son véritable enseignement. Et c'est un enseignement, si vous voulez, qui s'adresse directement auquel c'est une sorte de lecture que vous faites en permanence, et lorsqu'on écoute les paroles de Jésus, elles s'adressent directement à nous. Il n'y a pas besoin de commentaires, il n'y a pas besoin d'explications. Elles peuvent éveiller une vibration quelconque en nous-mêmes qui peut nous amener directement à cet esprit.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, l'évangile de Thomas est centré sur la présence immédiate du royaume, à la fois intérieure et extérieure. Et pour vous, cette dimension de Jésus nous conduit-elle à la sagesse orientale ? Ou est-ce que ce serait plutôt une imprégnation de l'univers oriental qui aurait influencé la pensée de Jésus ?
Alors, si Jésus s'est effectivement rendu en Inde, il est possible, comme l'indique ce manuscrit, qu'il ait essayé de suivre différents enseignements, que ce soit l'enseignement des hindous, des bouddhistes, des jains ou des zoroastriens. Mais il est également tout à fait possible de penser que il a pu trouver lui-même cette source en lui-même par sa propre intuition intérieure. Il a peut-être pu écouter différents enseignements, peut-être été influencé, mais ce qu'il nous dit, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de lui-même, ça vient de la source qui est en lui-même.
Est-ce que pour vous, c'est important de savoir qu'il serait allé dans ces pays ?
Ce n'est pas important historiquement, d'autant qu'à mon avis, on n'en aura peut-être jamais la preuve, sauf si on fait des recherches approfondies comme on l'a fait pour Thomas, puisque maintenant il semble admis que Thomas s'est effectivement rendu en Inde. Ce qui est important, c'est qu'il y a un parallèle impressionnant entre la sagesse orientale et les paroles de Jésus. Donc, ça a pu venir directement de son intuition. Peut-être qu'il a été influencé par d'autres sources. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y avait des missionnaires bouddhistes un peu dans le monde entier, depuis l'empereur Ashoka qui avait envoyé ses missionnaires dans le monde entier. Donc, il a pu également rencontrer des bouddhistes ou des hindous en Palestine ou en Égypte. Mais le plus important, c'est que la source parle à travers la bouche de Jésus et c'est une source purement intérieure, une source purement intuitive.
Alors pour continuer à valider l'idée que Jésus serait allé en Inde ou pas, enfin vous cherchez comme ça dans votre livre des repères historiques, vous en référez à des historiens musulmans comme Al-Sher Al-Saïd Us-Sadiq. Alors pourquoi est-ce que vous cherchez comme ça des témoins, on pourrait dire, de ce passage ?
Ben, il se trouve que du côté des textes chrétiens, il n'y a pratiquement aucun texte qui ne fasse une quelconque allusion à un possible voyage de Jésus en Inde, à part les actes de Thomas, qui est différent des évangiles de Thomas. Il n'y a que les actes de Thomas qui font une allusion à un voyage possible de Jésus avec Thomas en Inde. Par contre, dans les sources, dans les documents hindous, bouddhistes ou musulmans, il y a beaucoup plus de références sur un certain Issa, puisque Issa, c'est la transcription en arabe ou en sanskrit du nom de Jésus, un certain Issa qui serait venu de Palestine jusqu'en Inde et qui aurait voyagé dans tout le nord de l'Inde. Et d'ailleurs, à tel point que les musulmans surnomment Jésus le voyageur, le grand voyageur, celui qui allait sans arrêt d'un endroit à l'autre. Et donc, il y a eu plusieurs sources dans des manuscrits musulmans, notamment au Cachemire, en Afghanistan, dans lesquels il fait état de ce que ce Jésus ou Jésus ou Issa se serait effectivement rendu au Cachemire, dans le nord de l'Inde, et serait peut-être même allé jusqu'à Bénarès. Il y a des témoignages. Quand on se rend en spirituel, il y a quand même des témoignages, des sources qui font état de ce personnage de Jésus. Donc, pourquoi est-ce que ça ne confirmerait pas la possibilité d'un voyage de Jésus en Inde ?
Absolument. Alors, donc là, il s'agit donc de la vie de Jésus, de son parcours d'homme, au fond, en Inde et ailleurs. Vous comparez aussi des conceptions du monde hindou avec la théologie chrétienne. Par exemple, vous nous dites... Il est tentant de comparer la Trimurti hindoue ou le Trikaya bouddhiste avec le mystère de la Sainte Trinité. Et vous citez Alain Danielou, « Les similitudes qui existent entre le christianisme et le bouddhiste ne sont pas de simples coïncidences. » Là encore, ça vient renforcer.
Oui, c'est-à-dire on peut se demander aussi d'où est venue cette notion de la Trinité, puisque quand on lit la Bible hébraïque, quand on lit l'Ancien Testament, et même quand on lit les évangiles canoniques, à aucun moment il n'est clairement fait allusion à une Trinité telle qu'elle a été définie par la suite, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par contre, dans l'hindouisme notamment ou dans le bouddhisme, il y a cette notion de, disons, de Trinité est présente. Donc, pour les hindous, par exemple, Dieu est triple, il est à la fois Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, c'est le Dieu qui crée le monde, de la même façon que Dieu le Père crée le monde. Vishnu, c'est le Dieu qui s'incarne sur Terre sous différentes formes, ce qu'on appelle les avatars. Donc ça peut être Vishnu, ça peut être Krishna, ça peut être Ram. Et de la même façon que Jésus est le Dieu qui s'incarne sur Terre sous une forme humaine. Et enfin, le troisième personne de la Trinité, c'est Shiva dans l'hindouisme. Shiva, c'est le dieu du yogi, c'est le dieu de l'esprit, c'est aussi le dieu qui détruit à la fois l'ego par la méditation et qui détruit également le monde à la fin des temps, de même que l'esprit est souvent décrit comme celui qui est l'esprit de l'illumination, celui qui détruit le moi pour laisser place à Dieu, à l'absolu, mais également c'est l'esprit qui apparaît à la fin des temps, celui qui, en quelque sorte, est l'esprit qui détruit. Donc les trois sont complémentaires et on peut se demander comment cette conception, qui quand même ressemble assez près, a pu avoir un équivalent dans le dogme chrétien. Mais ça, c'est une simple question. Après, je ne sais pas comment il y a pu y avoir une influence quelconque ou d'où est-ce que ça vient exactement.
Il faut encore travailler.
Ah oui, évidemment, on n'en finit pas. Voilà. Mais c'est toujours passionnant. On n'arrête pas de creuser la source.
Donc vous le développez bien dans votre livre, hein, il y a une convergence entre ces paroles de Jésus et la sagesse orientale. Vous nous dites aussi qu'au fond, dans les dernières pages de votre livre, vous terminez en disant « Il importe peu de savoir si Jésus a ou non physiquement vécu en Inde ». Alors finalement, qu'est-ce qui serait important pour vous ? Est-ce que vous voudriez qu'il soit annoncé que l'important ce sont ces logias, cet évangile de Thomas, qu'il faut oublier les miracles, la résurrection, qui ne sont que des fadaises peut-être ? Peut-être le mot est un peu fort, vous allez me le dire. Que voudriez-vous finalement que les chrétiens d'aujourd'hui pensent ou croient ?
Je cherche simplement à essayer de retrouver ce que Jésus a pu réellement nous dire, nous apporter. Après, c'est à chacun de suivre sa propre voie. Les miracles ou la résurrection, ce n'est pas des fadaises. Disons, les miracles, c'est le fait que tout personnage qui a atteint un certain niveau peut effectivement ou faire des miracles, ou il peut également arriver que des miracles se produisent automatiquement autour de lui. Ça, ce n'est pas impossible, mais à mon avis, ce n'est pas du tout sur cela que l'on puisse fonder une foi quelconque, que l'on puisse annoncer quoi que ce soit. Par contre, ce qui est important, c'est de bien comprendre, à mon avis, que la résurrection ne doit pas être entendue comme la réanimation des cadavres, que ça ne peut être qu'un éveil intérieur. Si vous voulez, pendant longtemps, l'Église, et notamment les premiers pères de l'Église, nous ont dit « il faut y croire parce que c'est absurde, credo qui est absurdum ». Et donc, si on a un minimum d'esprit rationnel, On ne peut pas se contenter de croire en quelque chose uniquement parce que c'est absurde. Mais ceci dit, c'est à chacun de trouver sa propre voie. Mmh. Et moi, je pense que les paroles de Jésus, telles qu'elles sont contenues dans ces logias de l'ange de Thomas, sont celles qui sont les plus directes et les plus proches de ce que Jésus a pu réellement annoncer et nous dire.
Voilà, elles sont dépouillées d'une théologie qui abonde après dans Paul.
Elles sont totalement dépouillées de toute christologie. Mmh. Et elles sont totalement brutes et en même temps brutales. Un peu comme les koans des maîtres zen, qui sont aussi parfois des sortes d'énigmes, mais qui nous amènent à travailler en nous-mêmes, à chercher en nous-mêmes, à chercher à l'intérieur, et non pas attendre quoi que ce soit de l'extérieur. Le royaume est le dedans et le dehors, dit Jésus, le royaume est en vous. Et n'allez pas le chercher ailleurs. Le royaume est sous vos yeux, le royaume est en moi. Vous, à un moment donné, Jésus dit, vous parlez des morts, mais vous ne voyez pas celui qui est vivant devant vous, celui qui est en vous. Donc c'est en vous qu'il faut toujours chercher cette source, chercher ce royaume.
Merci beaucoup. Merci Yves Moati pour cette étude, pour ce récit, pour tout à fait accessible, pour comprendre le sens de ces paroles de Jésus dans l'évangile de Thomas, cette source dont vous dites, que vous évoquez longuement. Votre livre « Enquête de la source » est publié aux deux océans. Merci d'avoir pris ce temps-là par téléphone avec FM+. Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir Yves Moati.
Au revoir, merci bien.